France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
270 000 personnes touchées, 25 000 nouveaux cas chaque année. Le Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après Alzheimer. Et ces chiffres risquent de doubler d'ici 2030 du fait du vieillissement de la population. Si le diagnostic est posé tardivement, le plus souvent vers 75 ans, cette pathologie n'est pourtant pas qu'une maladie de personnes âgées, 50% des malades étant diagnostiqués en moyenne à 58 ans. Face à cette affection progressivement invalidante et handicapante, la recherche est très active pour mieux comprendre son origine, tenter de faire un diagnostic le plus précoce possible et élaborer différentes pistes thérapeutiques. Nous en parlerons largement. Nous verrons aussi ce que l'on sait aujourd'hui de cette maladie et comment on prend en charge les patients pour les aider à vivre au mieux leur quotidien. Pour parler présent et avenir, nous sommes avec le professeur Jean-Christophe Corvol. Jean-Christophe Corvol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, co-président du réseau français de recherche clinique sur la maladie de Parkinson et les troubles du mouvement. Et vous êtes également le coordinateur d'un projet innovant, passionnant, Master Trial. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, un mot sur les chiffres. Entre 2000 et 2020, le nombre de nouveaux cas de maladie de Parkinson a augmenté de 81%. Et d'ici à 2050, une nouvelle augmentation de 112% est à craindre. C'est la maladie neurologique qui progresse le plus rapidement en termes de prévalence, donc de fréquence et d'incapacité. Pourquoi ? Comment on explique ça ?
On explique ça essentiellement par le vieillissement de la population. Il y a de plus en plus de personnes âgées, et tant mieux, ça veut dire qu'on vit plus longtemps. Mais comme c'est une maladie qui est liée à l'âge, eh bien, il va y avoir plus de patients parkinsoniens dans le monde. Donc ça va doubler effectivement d'ici 2050. Dans le monde, mais essentiellement dans les pays où les populations sont plus jeunes, en Afrique, en Asie, mais en Europe aussi, ça va augmenter d'au moins 40%.
On parle de vieillissement de la population, mais on a l'impression, à entendre de plus en plus de témoignages de patients jeunes atteints, qu'il y a un rajeunissement de cette maladie. C'est une réalité ou non ?
Alors, il y a de plus en plus de patients jeunes, mais c'est plus lié à la pyramide des âges. C'est pas, il y a pas de facteur particulier qui explique cette augmentation dans la population jeune. Et proportionnellement à l'augmentation de la population, c'est la même chose que chez les sujets âgés.
Et puis, il y a une autre augmentation prévue, c'est l'écart. Il y a déjà un écart important entre la fréquence chez les hommes et chez les femmes, et cet écart devrait se creuser.
Oui, tout à fait. On ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a un peu plus de Parkinson chez les hommes que chez les femmes. Et comme l'espérance de vie des hommes augmente plus vite que celle des femmes, du coup, ce ratio va augmenter. Il va y avoir plus d'hommes encore que de femmes. L'autre chose, c'est que le tabac est protecteur aussi du Parkinson. Et au XXe siècle, les femmes ont plus fumé qu'avant. Et du coup, elles développent moins de Parkinson, ce qui est bien. Mais bien sûr,
l'idée de se mettre à fumer. Pour se protéger Parkinson, il y a d'autres solutions. On verra effectivement comment expliquer tout cela. On parlera cause et traitement. D'abord, la maladie. C'est quoi la maladie de Parkinson et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au niveau des neurones des malades ?
Alors, c'est une perte de certains neurones, pas de tous les neurones, mais les neurones qui sécrètent la dopamine. Et la dopamine, c'est l'huile du moteur. Donc, le moteur marche bien, mais il n'y a plus d'huile. Donc, on est lent, raide et il y a parfois ce tremblement caractéristique. C'est ça qui caractérise la maladie.
On dit que les patients, en fait, ne présentent pas de symptômes tant qu'un certain pourcentage de neurones n'est pas détruit. C'est-à-dire qu'au début, la maladie n'apparaît pas alors que ça commence à se produire dans le cerveau.
Tout à fait. Les symptômes, ils apparaissent quand on a déjà perdu 50% des neurones. Il y a toute une phase silencieuse pendant laquelle on compense, dont on reparlera tout à l'heure d'ailleurs.
Alors c'est vrai que dans l'image qu'on a des personnes malades, c'est avant tout ce tremblement qui domine, mais c'est pas toujours le cas. On va écouter le témoignage de Catherine qui parle de son mari malade. Le diagnostic chez lui avait été fait avant 50 ans et elle témoigne sur Ici Lorraine. Écoutez-la.
Mon mari n'a pas de tremblement du tout et c'est vrai qu'en général on pense personnes âgées qui tremblent. Mais il faut savoir que c'est de la crispation, un mal-être aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent les gens dépriment, donc ils sont soignés pour une dépression. Et c'est très difficile. C'est souvent la marche, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus lents. Et mon mari, il avait le bras gauche qui était toujours en épingle, comme ça, sur son torse.
Il bougeait plus.
Il bougeait plus quand il marchait. Vous avez des douleurs un peu partout. Et on ne comprenait pas. Pour mon mari, c'était très difficile, ça fait 5 ans qu'on a cherché.
Alors, on va reprendre ce témoignage, bien sûr, mais ce tremblement, ça reste quand même un symptôme très fréquent. Et comment se caractérise-t-il ?
Alors, c'est un tremblement qui survient au repos, qui est souvent asymétrique, donc ça commence d'un côté et il disparaît dans le mouvement. Donc il n'est pas forcément très gênant en fait dans les mouvements de tous les jours. Par contre, il se voit et il est à différencier de ce qu'on appelle le tremblement essentiel, qui lui, c'est le tremblement qu'on a quand on verse un verre d'eau, par exemple, chez les personnes âgées parfois.
Et il y a pas pour ça, il y a pas effectivement, c'est pas une pathologie grave, mais
c'est ça, c'est pas voilà. Le Parkinson.
Voilà. Or les autres symptômes, comme évoquait Catherine, c'est de quel type?
Alors, cette dame a tout à fait raison. Il y a d'autres symptômes moteurs, donc la lenteur et la raideur qu'elle a bien décrit. Et puis, il y a tout un cortège de symptômes non moteurs également qui peuvent être associés, pas chez tous les patients, qui peuvent se caractériser par une anxiété, une dépression, des troubles du sommeil, une constipation et une fatigue. Et ceux-là, ils sont moins spécifiques de la maladie. Donc, quand ça commence par ça, c'est des fois plus difficile de faire le diagnostic.
C'est-à-dire qu'il peut se passer combien de temps entre les premiers symptômes et le diagnostic?
En moyenne, c'est un an. Le diagnostic n'est pas si compliqué à faire, en fait, par un neurologue.
C'est un diagnostic clinique?
C'est un diagnostic clinique. Il n'y a pas d'examen spécifique à faire. Mais quand on a publié récemment une étude, justement, pour comprendre pourquoi il y avait ce délai, le délai est plus long, justement, quand ça commence par ces symptômes non spécifiques. Et chez les sujets âgés aussi, des fois, qui rapportent le tremblement ou la lenteur à l'âge, plus qu'à une maladie. Et du coup, ça retarde aussi le diagnostic.
Et on peut dire que chez les gens, quand le diagnostic est fait plus tôt, enfin chez les gens plus jeunes, c'est plus des signes effectivement un peu différents que le tremblement habituel.
C'est extrêmement variable. Chez les jeunes, non, c'est souvent des symptômes moteurs.
D'accord. Est-ce que l'errance parfois pourrait être liée au manque de neurologues? C'est une spécialité relativement jeune, hein, la neurologie. Est-ce qu'on en manque en France?
On manque de neurologues, d'autant plus que, comme on a dit, ces maladies, il n'y a pas que la maladie de Parkinson, mais toutes les maladies neurodégénératives, elles augmentent. Et c'est vrai que les délais pour avoir un rendez-vous en neurologie, c'est compliqué, surtout dans les déserts médicaux.
C'est donc un manque de dopamine, on l'a compris, substance indispensable notamment à la planification et au contrôle des mouvements qui est en cause. Qu'est-ce qui l'explique? Qu'est-ce qui conduit à la destruction des neurones qui la sécrètent? On en parle tout de suite. Carnet de santé aujourd'hui consacré à la maladie de Parkinson, une maladie progressivement invalidante qui touche près de 11 millions de personnes dans le monde, dont la fréquence pourrait plus que doubler d'ici 2050. Pour en parler, nous sommes avec le professeur Jean-Christophe Corvol, professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, il n'y a pas une cause pour expliquer cette affection, mais plusieurs. On fait le point de ce que l'on sait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un terrain génétique? Est-ce que ça peut être une maladie héréditaire? Est-ce que c'est une prédisposition?
Alors, il y a des très rares formes génétiques, mais c'est 1 à 5% des malades, des formes familiales ou des formes à début jeune. Par contre, on sait aujourd'hui effectivement qu'il y a un terrain qui prédispose en fait à la maladie. Et on connaît maintenant plus d'une centaine de gènes qui sont responsables de ça. Alors, chacun des gènes confère un risque très faible de développer la maladie, mais quand on en a plusieurs, du coup, on a un risque plus élevé.
Et on travaille là-dessus, c'est une piste thérapeutique ou pas, ou c'est trop complexe avec trop de gènes et trop qui sont pas, c'est pas une forme monogénique quoi, c'est pas un gène qui explique la maladie.
Sur les formes très rares dont on a parlé tout à l'heure, oui, il y a des traitements qui vont cibler ces gènes maintenant en essais thérapeutiques. Sur le terrain génétique, on étudie beaucoup ça, surtout pour essayer de comprendre la variabilité de la maladie en fonction de ce terrain.
Alors, l'environnement, bien sûr, est important. On connaît le risque lié à l'exposition à certains pesticides et produits chimiques industriels. D'ailleurs, il faut le dire, la maladie de Parkinson est reconnue comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs. Est-ce qu'il y a de nouveaux facteurs environnementaux qu'on découvre?
Alors, en dehors des pesticides, il y a d'autres toxiques, les solvants. Et les pesticides, c'est vrai chez les agriculteurs qui sont exposés, mais c'est vrai aussi dans notre alimentation de tous les jours. On est exposés tous, en fait, à ces pesticides du fait de cette diffusion dans l'alimentation.
Ça veut dire qu'on a déjà découvert des maladies Parkinson qui ne seraient liées qu'à la consommation de produits qui ont été...
Alors, on n'arrive pas à le prouver parce que on est tous exposés, mais on ne sait pas très bien comment, à quoi et à quel pourcentage. Mais on sait que c'est associé, en tout cas, à ça. L'autre chose, c'est que la pollution de l'air aussi, récemment, a été associée au Parkinson. C'est un peu plus faible qu'avec les pesticides, mais avec le réchauffement climatique, ça va participer sans doute à cette augmentation de prévalence de la maladie.
Et est-ce qu'on constate du coup que certaines régions, éventuellement de France, sont plus touchées que d'autres?
En France, je ne sais pas, mais en Afrique, typiquement, dont on a parlé tout à l'heure, ça participera à cette augmentation du nombre de cas. Il y a des facteurs protecteurs aussi, le café, on a dit le tabac tout à l'heure, mais surtout ne fumez pas, et le café, le thé, et il y a d'autres facteurs aussi, comme le diabète ou l'obésité qui peuvent être associés au Parkinson.
Par quel biais?
On ne sait pas très bien. Peut-être la résistance à l'insuline. On a fait une étude récemment.
On va en parler, oui.
On va en parler après. Et inversement, il y a aussi des facteurs dans notre vie quotidienne, ou notre changement de mode de vie, le sport. On fait plus de sport et c'est bien parce que le sport, on sait que c'est protecteur contre le Parkinson aujourd'hui.
Et qui explique, en dehors de la pyramide des âges, j'ai bien compris, l'augmentation du nombre de cas chez les jeunes? Est-ce que c'est cette pollution qui pourra expliquer éventuellement cela, ces facteurs environnementaux ou pas?
À la fin du 20e, début du 21e siècle, on a été très exposé, plus qu'avant en fait, à ces facteurs environnementaux. Donc oui, ça participe en tout cas à cette augmentation de prévalence.
Alors le microbiote, notre fameux microbiote dont on parle beaucoup et pour beaucoup de pathologies, on dit que quand il y a une dysbiose, c'est un dysfonctionnement de ce microbiote, il pourrait y avoir une neuroinflammation qui pourrait expliquer le Parkinson.
En tout cas, c'est une piste assez sérieuse et une hypothèse qui se renforce en fait de jour en jour. Le microbiote, c'est les bactéries qui sont présentes dans notre tube digestif. Et il se trouve que le Parkinson, ça pourrait commencer en fait dans le tube digestif en périphérie et remonter ensuite via les nerfs dans le cerveau. Donc la composition du microbiote pourrait contribuer en fait à cette progression de la maladie. Et récemment, il y a une étude intéressante en Belgique, où on a fait des greffes fécales en fait pour changer le microbiote chez des patients parkinsoniens qui semblent avoir un petit effet. C'est des résultats qui sont chez un petit nombre de patients, mais ça montre que cette interaction qu'on a avec un autre type d'environnement qui est cette symbiose avec ces bactéries est importante également.
Permettra peut-être de faire de la prévention du coup.
On peut l'espérer.
Est-ce qu'il y a des troubles digestifs éventuellement chez les malades de Parkinson et qui seraient précoces ou pas?
Oui, il y a des signes dans cette phase silencieuse de la maladie qu'on a évoquée. La constipation est très fréquente. Alors c'est pas spécifique, hein, on peut être constipé et jamais avoir de Parkinson, mais on retrouve plus fréquemment la constipation chez les patients parkinsoniens. Et quand on va regarder dans le tube digestif, si on fait des biopsies, avant même l'apparition de la maladie, on peut trouver des stigmates de Parkinson.
Alors, il y a d'autres pistes thérapeutiques, bien sûr, on va y venir. Pour l'instant, on va voir ce que l'on propose aujourd'hui aux patients. Le traitement de référence, ce sont des médicaments capables d'augmenter ou de remplacer la dopamine, l'hormone donc en déficit chez ces malades. Alors, je dis augmenter ou remplacer, pourquoi pas donner de la dopamine?
Alors, la dopamine, elle passe pas dans le cerveau. Donc, on donne un précurseur qui s'appelle la L-dopa et qui va se transformer dans le cerveau en dopamine.
Alors, ces médicaments, longtemps, ont été donnés par voie orale. On va voir comment on les donne aujourd'hui. Mais, parce qu'il y a d'autres solutions, c'est quelle efficacité? Et quel risque?
Alors c'est très efficace sur les symptômes moteurs dont on a parlé tout à l'heure, sur le tremblement, la rigidité et la lenteur. Par contre, dans le temps, ça va évoluer. Au début, ça va être efficace vraiment de façon spectaculaire et tout au long de la journée.
Et au fur et à mesure. On parle de la lune de miel qui dure quelques années après le.
La lune de miel, les malades, ils aiment pas qu'on dise ça parce qu'on reste quand même malade.
C'est le grand public qui dit ça, en général, absolument.
mais effectivement, pendant cette phase-là, on va avoir un traitement qui est efficace. Après, au bout de 5, 10, 15 ans, l'efficacité du traitement va toujours être là, mais de façon plus courte, pendant 2 heures, 3 heures, et on va être obligé de reprendre le médicament à plusieurs reprises.
Et pourquoi?
Parce qu'au début, le médicament est stocké dans les neurones qui restent du cerveau. Et quand la maladie a évolué et qu'il n'y a plus de neurones, c'est dépendant complètement de la concentration sanguine.
Donc on a imaginé d'autres voies d'injection de ces médicaments?
Du coup, dans cette phase-là où il y a des fluctuations en fait, de l'effet du traitement, on va rétablir une stimulation continue par des pompes. Donc soit par voie sous-cutanée, soit par voie digestive directement, de L-dopa ou d'autres médicaments qu'on appelle les agonistes dopaminergiques comme la pomorphine.
C'est compliqué à trouver la bonne dose ou pas?
À ces stades-là, ça peut être compliqué de trouver la bonne dose et ça peut nécessiter d'avoir affaire à des spécialistes experts du Parkinson pour mettre en place ces traitements.
Alors, il y a des effets secondaires également. Quels sont-ils?
Les effets secondaires des médicaments dopaminergiques, au début, peut y avoir des nausées, mais généralement, ça disparaît après. Sinon, c'est une certaine somnolence pour certains médicaments, ce qui peut être embêtant. Et puis, des troubles du comportement, des addictions, en fait, au jeu, au sexe, aux achats, à la nourriture. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Et donc, quand on donne ces médicaments-là, il y a un risque de développer ces troubles-là. Donc, il faut y faire attention et on prévient les patients et l'entourage du risque de développer ces troubles.
Parce qu'il y a eu des plaintes, effectivement, de patients auprès de contre les laboratoires, parce qu'ils n'avaient pas été informés.
Absolument.
Certains ont été ruinés, d'autres, enfin voilà. Et ça, pour lutter contre ça, il suffit de modifier la dose du traitement, ou est-ce que c'est un peu, parce que c'est chez beaucoup de patients, en fait, quand même.
C'est quasiment la moitié des patients qui vont être traités par agoniste dopaminergique. Il y a deux types de médicaments. La dopa, dont on a parlé tout à l'heure, qui est la substance naturelle, c'est ce qui marche le mieux. Et puis des agonistes dopaminergiques qui ont l'avantage de pouvoir être donnés qu'une fois par jour. Et c'est ceux-là qui donnent plus les troubles en question. Si on les arrête, ça disparaît. Mais il faut pouvoir être alerté de l'existence de ces troubles-là, qu'on ne rattache pas toujours au traitement.
Outre les médicaments, on a une approche chirurgicale qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. C'est quoi ?
La stimulation cérébrale profonde, c'est une petite électrode qu'on va mettre dans un noyau très précis, profond dans le cerveau, relié à un pacemaker qui va donner des petites décharges électriques et qui va rétablir le circuit moteur dont je parlais tout à l'heure et faire la même chose que la dopa mais sans médicament. Donc c'est très efficace. Par contre, ça concerne un petit nombre de patients parce que c'est des indications très précises et puis il y a aussi des contre-indications, bien sûr, d'un traitement de chirurgie dans le cerveau.
C'est lourd comme opération ?
Oui, c'est lourd. C'est pour ça que ça ne peut pas être proposé à tout le monde non plus.
Et puis, bien sûr, il y a des approches non médicamenteuses qui sont importantes pour la qualité de vie des patients. On peut leur proposer de la kiné, de l'orthophonie. Il y a tout un accompagnement qui doit être proposé.
C'est extrêmement important. On a parlé de l'exercice physique tout à l'heure. Je vous rappelle que l'OMS, elle conseille de faire au moins 30 minutes d'exercice physique par jour et 1 à 2 heures de sport le week-end. Si vous faites ça, déjà, vous prévenez. Oui. On pense que ça pourrait diminuer de 20% la prévalence du Parkinson, si tout le monde faisait ça dans la population.
D'accord.
Et après, quand on est malade et qu'on a certains symptômes, on fait appel à des professionnels, des kinésithérapeutes pour éduquer la marche, l'équilibre, la posture aussi qui peut être modifiée. Et puis des orthophonistes parce qu'on a une voix un peu plus faible dans le Parkinson.
Il y a une aide psychologique aussi nécessaire ?
La psychologie est très importante. Moi, je dis toujours à mes patients que c'est une maladie de couple parce que d'abord, le patient, lui, vit ça au quotidien et l'aidant, lui, aussi au quotidien, mais d'une autre façon. Donc, il y a un rééquilibre à trouver au niveau du couple. Et puis, psychologiquement, c'est une maladie qui est difficile.
On a parlé prévention avec effectivement l'activité physique. Il y a une alimentation qui pourrait être préventive ou pas ? En dehors du café ou du thé dont on a parlé, est-ce qu'on a des données là-dessus ?
Pas vraiment. Encore une fois, il y a cette constipation, donc il faut adapter son alimentation à la constipation. Il faut adapter l'alimentation aussi quand on est à ce stade des fluctuations pour fractionner les repas en même temps que les traitements. Mais sinon, il n'y a pas d'aliments qu'il faut ou ne pas prendre, particulièrement dans le Parkinson.
On sait si l'alcool est délétère ?
L'alcool n'est pas bon,
généralement, non, bien sûr.
Santé, mais il est pas particulièrement délétère.
Je le disais en début d'émission, la recherche est active, différentes pistes sont à l'étude, on en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos.
On parle donc maladie de Parkinson avec Jean-Christophe Corvol, professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, co-président du réseau français de recherche clinique sur la maladie de Parkinson et les troubles du mouvement. Et vous allez voir, la recherche sur cette maladie est intense et prometteuse. C'est une émission préparée par Anne-Claire Bazin, à la technique Marie-Claire Oumabadi, à la vidéo Edouard Rumelstein. Alors, on revient sur ce traitement de référence, cette dopamine. Est-ce qu'on pourrait pas la porter directement dans le cerveau ?
Alors ça, c'est une bonne idée, mais elle a déjà été évoquée par nos collègues lillois. En France, donc à Lille, il y a une étude qui a été effectuée. On a essayé d'injecter la dopamine, cette fois-ci, directement dans le cerveau, dans les ventricules, par voie chirurgicale, avec une pompe aussi qui est rattachée, qui est sous la peau et qui délivre le produit. C'était pas évident techniquement, parce que la dopamine, elle s'oxyde à l'air libre, donc fallait trouver une forme chimiquement stable, en fait, de la dopamine pour pouvoir l'administrer. Alors, c'est une phase 1-2, c'est très précoce, il y a quelques malades qui ont été traités. Ça semble en tout cas, au niveau sécurité, il n'y avait pas de problème particulier. Et ça semble avoir marché, c'est-à-dire que ça apporte un bénéfice comme le fait la dopage chez certains patients.
Ça veut dire que ça pourra être peut-être accessible pour les patients d'ici combien de temps ces techniques ?
Il faut faire une phase 3 pour confirmer les résultats. Il faut préciser la population dans laquelle ça pourrait être utile, sans doute à cette phase de fluctuation. Généralement, ça met 4-5 ans avant d'être accessible sur le marché.
Alors avec ces approches, bon, on réduit les symptômes. L'idéal, évidemment, c'est de protéger les neurones, donc d'avoir des traitements qui ralentissent, voire qui stoppent la progression de la maladie. Il y a plusieurs pistes en cours, donc il y en a une qui est un antidiabétique. Expliquez-nous ça.
Alors ça, c'est une idée qui est venue cette fois-ci de France aussi, du sud de la France.
On est bon en France.
Oui, ouais, on est bon en France.
Faut Bordeaux, le dire.
à Bordeaux et Toulouse. Il y a des hypothèses qui, ce qu'on disait tout à l'heure, que la résistance à l'insuline pourrait être participée aussi à la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Et le fait de faire mieux rentrer le glucose, ou en tout cas les voies de signalisation du glucose, ça pourrait être protecteur pour les neurones. Du coup, en repositionnant un antidiabétique, un médicament qui agit sur le diabète, sur ces voies-là, chez les patients parkinsoniens, on a montré, avec notre réseau de centres Parkinson en France, dans une étude, que ça pourrait stabiliser la progression de la maladie. Et c'est la première étude en fait qui a montré un médicament capable de stabiliser la maladie. Attention encore, c'est une étude de phase précoce, qu'on appelle de phase 2, donc il faut confirmer ces résultats sur une population plus large et en voir le bénéfice-risque, finalement la balance bénéfice-risque du traitement et la réelle efficacité dans une population plus large.
Pour revenir juste en un mot sur ce que vous disiez juste avant sur l'injection directement intracérébrale de dopamine, est-ce que c'est des études qui pourraient servir aussi à d'autres maladies neurologiques ? Voire neurodégénérative ou pas. Est-ce qu'on pourrait appliquer cette façon de procéder à d'autres maladies ?
Il y a plein de progrès en neurochirurgie, effectivement, de deux types. Un, pour essayer de cibler au mieux les structures sur lesquelles on va intervenir. Et deux, de pouvoir ouvrir cette barrière. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la dopamine, on la met directement dans le cerveau parce qu'elle passe pas la barrière. Il y a d'autres études en neurochirurgie où on essaye d'ouvrir la barrière avec des ultrasons, par exemple. On va appliquer des ultrasons, ça fait mieux pénétrer les médicaments dans le cerveau. Dans les tumeurs cérébrales, par exemple, on l'utilise pour que la chimiothérapie aille mieux dans la tumeur, que les concentrations soient plus importantes.
Il y a une autre étude qui a été menée autour de l'apport en fer. Qu'est-ce que le fer vient faire là-dedans ?
Alors le fer, on sait depuis très longtemps qu'il y a trop de fer en fait. Il y a des dépôts de fer dans la substance noire, là où il y a les neurones dopaminergiques. On ne sait pas très bien pourquoi, mais quand il y a trop de fer, c'est comme il y a trop de tout, c'est un peu toujours pareil, ça devient toxique. Et là, du coup, l'hypothèse, c'était que si on enlevait cet excédent de fer avec des médicaments qu'on appelle des chélateurs du fer, on pourrait améliorer la progression. Pareil, on a fait une étude, toujours avec notre réseau. Cette fois, c'était une étude européenne, mais pilotée en France. Avec un chélateur du fer chez des patients parkinsoniens débutants. Malheureusement, ça n'a pas marché. Non seulement ça n'a pas marché, mais en fait, ça a augmenté les symptômes chez les patients qui étaient traités par rapport à ceux qui étaient sous placebo.
On a une idée de pourquoi ?
Alors, c'est pas parce que c'était toxique pour les neurones, on a la preuve de ça. Il n'y avait pas de changement à l'IRM ou autre. Mais par contre, ça a interféré avec la dopamine elle-même. Et du coup, ça a bloqué un peu l'effet de la dopamine. Du coup, les patients étaient moins bien parce que ça bloquait la dopamine. Alors, la piste n'est pas complètement écartée, mais en tout cas, on ne peut pas l'utiliser tout seul sans dopamine, sans doute.
Aujourd'hui, les patients qui sont traités au moment où le diagnostic est fait, donc parfois tardivement. Est-ce qu'il y a une perte de chance ou pas d'être traité tardivement ?
Non, le traitement dopaminergique, il change pas l'évolution de la maladie. Qu'on le prenne tôt ou qu'on le prenne tard, c'est pareil. Il y a des études qui ont montré ça très bien. C'est une étude italienne qui a comparé l'évolution de la maladie chez les patients en Italie et puis en Afrique subsaharienne où l'accès aux médicaments est tardif et des fois les patients ne sont traités qu'après 10 ans d'évolution. Mais finalement, quand on les regarde, 5 ans plus tard, donc 15 ans pour les Italiens et 5 ans après en Afrique, ils ont à peu près la même progression. Donc il n'y a pas de perte de chance.
Je pose cette question parce que si on arrive à développer des médicaments qui protègent les neurones, il faudrait pouvoir le donner très tôt. Alors le donner dès les patients, en fait, pas des patients qui sont asymptomatiques ou pour lesquels la destruction des neurones a déjà commencé mais n'est pas effective. Est-ce qu'on a des pistes là-dessus pour pouvoir les repérer, ces patients-là ?
Oui, tout à fait. Ce serait l'idéal. C'est-à-dire, une fois qu'on aura trouvé un traitement qui est capable de modifier la progression, là, oui, il faudra traiter le plus tôt possible, voire même avant l'apparition des symptômes moteurs, dans cette phase silencieuse, pour éviter que ces symptômes apparaissent. Alors, le problème, c'est comment on détecte la maladie de Parkinson avant les symptômes. Il y a des pistes. D'abord, on a parlé de la constipation. Il y a aussi la perte de l'odorat froid qui peut être un symptôme précurseur. Mais surtout, il y a certains troubles du sommeil un peu particuliers où on est agité la nuit pendant les rêves qui est un signe précurseur de Parkinson qui semble un peu plus spécifique. Et aux États-Unis, il y a une étude qui va commencer bientôt dans ces troubles-là pour essayer de prévenir l'apparition de la maladie.
Et est-ce qu'on saurait repérer, en dehors de ces patients asymptomatiques, des patients qui seraient à risque de développer la maladie ?
Alors, avec la génétique dont on a parlé tout à l'heure, voilà. Après, on est un peu dans Gattaca, là, le fameux film. on pourrait essayer de prévenir les personnes à risque de développer la maladie, mais il y en a beaucoup parmi elles qui vont pas la développer. Donc, donner des médicaments à tout le monde, c'est toxique, les médicaments de base. Donc, il faudrait arriver à affiner un peu cette population à très haut risque de le développer.
L'idée, l'espoir vraiment, avant qu'on parle de votre plateforme, c'est de pouvoir éviter l'apparition éventuellement de la maladie chez des patients à risque.
On y arrivera peut-être un jour. Dans les formes génétiques dont j'ai parlé tout à l'heure, donc là, les formes familiales qui sont caractérisées, je vous ai dit qu'on développait des médicaments pour traiter. Aujourd'hui, c'est pour traiter les patients qui sont malades. Mais typiquement, les apparentés, les enfants, en fait, de ces personnes pourraient bénéficier du traitement avant l'apparition des symptômes. Ce sera peut-être la population qui sera la première à bénéficier de ce type de thérapeutique.
Alors, dernière nouveauté, donc c'est le lancement de la première plateforme française d'essais cliniques dédiée aux maladies neurodégénératives. Vous êtes le coordinateur de ce projet qui s'appelle Master Trial. Il faudrait que vous nous expliquiez de quoi il s'agit, en quoi c'est aussi innovant que ça. Ça vient d'être lancé, hein.
Ça vient d'être lancé, la préparation du projet vient d'être lancée, l'étude ne débutera que l'année prochaine. Vous avez vu, on en a discuté, ça met longtemps de développer les médicaments, il faut faire des phases 1, des phases 2, des phases 3.
Vous pouvez juste expliquer, parce que le grand public ne sait pas forcément ce que c'est que ces phases.
Oui, bien sûr, quand on veut tester un médicament, on vérifie d'abord sa sécurité chez les volontaires sains, ça c'est les phases 1. Ensuite, on veut détecter un signal, voir si ça fait quelque chose, c'est les phases 2, c'est chez les malades, et un petit nombre de malades. Et puis ensuite, on veut vérifier que l'effet est bénéfique dans une population plus large, comme on le prescrirait, ça c'est les phases 3. Donc pour chaque médicament, il y a ce circuit-là.
Et c'est long.
Et c'est long, ça met 10 ans et c'est cher. Non seulement ça c'est pour un médicament, mais si on veut en tester plusieurs, il faut le refaire comme ça en séquentiel. C'est un peu comme si, et pour chaque étude, il faut déposer des autorisations, avoir les accords réglementaires, trouver des financements. C'est un peu comme si à chaque fois que vous voulez tester quelque chose, vous construisiez un stade de football. Donc là, l'idée de ces master trials, c'est de construire un grand stade dans lequel on va faire tous les matchs. On va tester plusieurs médicaments en même temps. Ça a plein d'avantages. Le premier, c'est qu'il n'y a qu'un seul groupe contrôle. Donc, il y a plus de chances pour les malades qui participent, les participants, d'avoir un traitement, puisqu'il y en a plusieurs qu'on teste en même temps et un seul groupe contrôle. Et puis, c'est une fois qu'on a construit cette infrastructure, de façon perpétuelle, on va pouvoir tester un nouveau médicament. Quand il y en a un qui marche pas, on va pouvoir basculer les patients qui étaient dans ce groupe-là, dans un autre groupe, d'un autre traitement, etc., etc.
D'accord, donc on gagnera en efficacité et en temps.
Et en temps.
Et les patients sont impliqués dans ce projet ?
Alors là, c'est un projet qui est collaboratif. Ça implique le réseau des centres experts dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle NSPARC, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, l'Institut du cerveau, l'INSERM, le CHU de Toulouse. Et on travaille de façon très étroite, et il est partenaire du projet, avec l'association France Parkinson, qui est une association française de malades atteints du Parkinson. Et les malades eux-mêmes, experts, sont partie prenante du projet et participent à la construction. Ils font partie de tous nos groupes de travail pour mettre en place en fait cette étude pour que ça réponde vraiment à leurs besoins.
Et c'est effectivement très innovant dans notre pays. Ça existe ailleurs, cette façon de travailler la recherche ?
Oui, tout à fait. Ça a été beaucoup utilisé dans le Covid, où il fallait trouver des médicaments rapidement. Et il y a eu des essais plateformes. Les meilleurs là-dessus, c'est les Anglais. Et effectivement, il y a un essai plateforme aussi en Angleterre, qui est en cours, en Norvège. Aux États-Unis, l'étude dont j'ai parlé, c'est aussi un essai plateforme. Et puis en France. Et on travaille ensemble de manière collaborative. On s'est réunis en novembre tous ensemble à Londres, et l'année prochaine on le fera à Paris, pour partager notre expérience, choisir quelles sont les plateformes qui sont les plus adaptées pour tel ou tel type de médicament, et partager nos résultats.
Merci infiniment pour toutes ces explications passionnantes, professeur Corvol.